Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Djihadisme et contre-terrorisme, la guerre globale. À toutes et tous, le 21 janvier 2021 à Bagdad, un double attentat à la ceinture d'explosifs et 32 morts sur une place de marché. C'est un attentat qui n'a pas de nom et qui ne restera peut-être pas dans l'histoire. C'est pourtant l'attentat le plus meurtrier de ces trois dernières années. Il a été attribué à Daesh et il s'inscrit dans la longue litanie de la violence djihadiste, dont l'attaque contre les tours du World Trade Center le 11 septembre 2001 marque le commencement. La fin de la guerre froide a en effet été le début d'une autre guerre globale, beaucoup plus chaude, celle que les mouvements djihadistes déclarent aux pays qui les ont vus naître et à l'Occident tout entier. Tandis qu'en réponse, les États-Unis et l'Europe lancent une guerre contre le terrorisme qui parfois dit son nom et parfois le cache, mais avec des modalités différentes et qui en tout cas remettent la question de la sécurité au cœur des débats politiques. Si l'intégrisme religieux et la radicalisation politique sont anciens, le djihadisme comme doctrine irréductiblement religieuse et politique a ceci de nouveau qu'il a essaimé sur toute la planète. Les talibans en Afghanistan, Al-Qaïda au Moyen-Orient, Al-Qaïda au Maghreb islamique, puis Daesh, l'État islamique, Boko Haram en Afrique subsaharienne, sans oublier des mouvements plus épars en Tunisie, en Ansar al-Sharia ou dans le Caucase. Tous ces groupes ont théorisé l'action violente et comptent bien déstabiliser les pays ennemis par les armes. Même si désormais l'espoir d'instaurer un califat s'évapore, le recours au terrorisme persiste. Souvent, le fait de ceux qu'on appelle des « homegrown terrorists » nés dans le pays qu'ils prennent pour cible après un entraînement dans la zone syro-irakienne. En France, les attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère, contre les passants de la promenade des Anglais à Nice et bien sûr les attaques du 13 novembre 2015 s'inscrivent dans cette offensive djihadiste mondiale. Pour rompre avec les analyses très générales du djihadisme et les querelles idéologiques indécidables, il faut revenir aux faits, aux faits, aux faits. Et c'est ce qu'entreprend mon invité Marc Ecker dans un livre qu'il vient de co-signer sur le sujet. Bonjour Marc Ecker.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Vous êtes spécialiste du terrorisme et de la radicalisation et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Je vous reçois pour le dernier en date coécrit avec Elie Tenenbaum, lui aussi à l'IFRI, qui s'intitule « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle ». C'est publié chez Robert Laffont. Je dois dire, Marc Ecker, que votre ouvrage est remarquablement documenté. Est-ce qu'il y avait de votre côté, disons, une volonté de rompre avec des approches ou des analyses trop générales et de revenir, je le disais, aux faits et aux acteurs du djihadisme ?
Il y avait en fait une triple ambition dans ce travail avec mon collègue donc Elie Tenenbaum. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous travaillons tous les deux sur le terrorisme depuis de nombreuses années. Moi plutôt sur l'aspect menace et lui plutôt sur la réponse, en particulier la réponse militaire. Et nous avions fait des enquêtes de terrain ensemble, notamment à l'étranger. Et puis nous avions déjà écrit des publications plus courtes. Et dans le fond, il y a 3 ans, on s'est dit qu'il fallait essayer de faire un ouvrage ayant donc une triple ambition, je le disais. La première, c'est de faire l'histoire de la guerre contre le terrorisme, puisque quand nous avons eu l'idée d'écrire ce livre, nous avions déjà en ligne de mire 2021 et le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Et nous nous sommes dit qu'en 2001, dans le fond, personne ne s'imaginait que 20 ans plus tard, nous y serions toujours, que la guerre se poursuivrait. Donc la première idée, c'était de faire cette histoire effectivement aussi précisément que possible, en mêlant les dernières recherches, les dernières sources secondaires, mais aussi quelques sources primaires, puisqu'il y a eu des déclassifications d'archives notamment. La deuxième ambition, c'était de montrer que dans le fond, nous sommes dans la stratégie, c'est-à-dire que les terroristes d'un côté et les acteurs du contre-terrorisme de l'autre se répondent. Quand l'un agit, l'autre réagit. Et ça donne une dynamique stratégique. Et ça, c'est une nouveauté dans la littérature parce que généralement, il y a 2 champs qui existent jusqu'à présent. Le champ, entre guillemets, des djihadologues, des spécialistes vraiment de la mouvance djihadiste, souvent arabophones, qui connaissent très bien les doctrines djihadistes, la sociologie de ces acteurs, etc. Et puis, de l'autre côté, des spécialistes de la chose militaire ou policière ou judiciaire, mais qui travaillent quasiment uniquement sur la réponse. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces deux champs doivent interagir, qu'il y a vraiment des dynamiques stratégiques. Et puis la troisième et dernière ambition, c'était vraiment de tirer le bilan stratégique de cette période, d'essayer de comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans la réponse au terrorisme, en particulier au djihadisme.
Alors, vous restituez avec honnêteté, disons, les débats entre spécialistes français sur ces questions-là, mais on a le sentiment, en vous lisant, que c'est des débats, alors, on va pas dire stériles, mais qui, en tout cas, ont le défaut d'obscurcir un peu l'objet. C'est votre sentiment? Il faut l'éclairer différemment?
Le champ académique français a été extrêmement clivé au cours des dernières années. L'affrontement entre Gilles Kepel et Olivier Roy a même eu une visibilité publique avec des textes dans des grands médias qui ont été publiés. Il y a d'autres auteurs qui ont développé des théories différentes de la radicalisation. Je pense à des personnes comme François Burga, Farhad Khosrokavar ou d'autres. Je ne vais pas résumer ces théories de la radicalisation, mais il y avait vraiment un affrontement très clair sur l'origine des dynamiques et des processus qui entraînent des individus dans la voie du djihadisme ou du terrorisme, avec notamment un aspect important qui opposait ces acteurs, qui est la place du facteur religieux dans la radicalisation. Et nous, ce qu'on a constaté au fil de nos recherches, c'est que dans le fond, ces facteurs d'explication sont bien souvent plus complémentaires qu'opposés, et on a essayé vraiment là de se placer un peu au-dessus de la mêlée, même si ça peut paraître pompeux de dire des choses comme ça, mais de dépasser en tout cas ces guerres de chapelle académiques qui sont particulièrement fortes en France et peut-être un peu moins développées à l'étranger.
Il y avait aussi l'idée, vous l'avez dit dans votre premier propos, action-réaction. On voit bien dans l'ouvrage Marc Ecker l'idée d'une interdépendance ou d'une configuration d'acteurs, c'est-à-dire que les djihadistes forment déjà une première configuration entre eux avec des conflits, ceux qui luttent contre eux forment aussi une configuration, et donc il y a une interdépendance finalement, c'est pas simplement à sens unique.
Oui, on est dans le domaine de la stratégie, dans le domaine de la conflictualité. Effectivement, il y a des adversaires qui se font face. Et quand l'un bouge, l'autre bouge aussi. Donc, il y a des interdépendances qui existent. Encore une fois, voilà, il s'agit vraiment d'un affrontement et on a voulu revenir à cette logique stratégique de l'affrontement. Donc on se place, si on veut se mettre dans une perspective anglo-saxonne, on est plus dans le domaine des strategic studies, des war studies ou des security studies, en tout cas vraiment dans le domaine de l'analyse des acteurs d'un conflit et des dynamiques stratégiques de ce conflit.
Alors vous avez dit affrontement, ce qui est frappant aussi en lisant votre ouvrage Marc Ecker, c'est la manière dont depuis le début du XXe siècle, hein, donc depuis le début du siècle dernier, le djihadisme, et en tout cas les doctrinaires du djihadisme, ont théorisé la violence et ont théorisé l'usage et la légitimité du recours à la violence. Quelles sont les origines intellectuelles ou politiques de ce rapport à la violence, de ce bréviaire de la violence?
Oui, ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a affaire à des acteurs qui ont leur rationalité, qui ont leur doctrine. Et donc quand on peut entendre parfois que les djihadistes sont des fous, quand on regarde la structuration intellectuelle de leur champ et de leur doctrine, on se rend compte qu'on est très loin de la folie. Il y a vraiment un effort de réflexion qui est fait, même si cette rationalité peut être différente de la rationalité d'acteurs militaires occidentaux, notamment quand la dimension eschatologique s'insère dans cette réflexion. Je ne vais pas m'attarder sur le lien, sur la question de la folie et du djihadisme, parce que je pourrais être très long là-dessus, mais je crois vraiment qu'il faut distinguer le niveau individuel, où effectivement il peut y avoir des individus qui parfois ont des pathologies psy qui passent à l'acte, du niveau stratégique. Et là, on voit vraiment qu'il y a des références intellectuelles très claires. Alors, je ne vais pas revenir aux origines médiévales du djihadisme, mais parfois on fait référence à Ibn Taymiyyah, qui s'était impliqué dans le djihad contre les Mongols à l'époque et puis qui ensuite avait inspiré les mouvances wahhabites et salafistes, par sa critique notamment du soufisme, par sa critique des chiites, etc. Mais si on en vient au XXe siècle, je crois qu'il faut évoquer une figure que on associe généralement davantage aux frères musulmans, qui est Saïd Qutb, mais qui prônait la violence, hein, qui fait partie de la branche révolutionnaire des frères musulmans.
Qui est égyptien, hein, on le précise.
Qui est égyptien à l'origine, qui avait donc été pendu, condamné à mort à l'époque de Nasser, qui considérait le régime égyptien de Nasser comme un régime mécréant et qui prônait le retour à un État islamique pur. Saïd Qutb, donc, on l'associe davantage aux frères musulmans, mais le fait est que sa pensée a été reprise en partie aussi par la mouvance salafo-djihadiste et qu'il y a pu y avoir des hybridations qui se sont faites entre une certaine branche des frères musulmans et la mouvance salafo-djihadiste. Il y a surtout un auteur qui a eu une influence majeure sur le djihadisme international tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est Abdallah Azam, qui lui est d'origine palestinienne et qui, lors du djihad en Afghanistan contre les soviétiques dans les années 80, a théorisé l'internationalisation du djihad. Pour le dire autrement, pour Abdallah Azam, à partir du moment où une terre musulmane est envahie, se met en place un djihad défensif, et ce djihad défensif qui traditionnellement n'incombait qu'aux personnes vivant sur ce territoire, Abdallah Azam l'étend à l'ensemble de la communauté des croyants, à l'ensemble de l'Oumma, et donc pour lui, il devient une obligation individuelle pour chaque musulman d'affluer sur la terre envahie pour prendre la défense de la communauté musulmane. Ça, c'est vraiment une innovation doctrinale majeure, et Abdallah Azam, en plus, n'a pas fait que théoriser cette évolution, il l'a aussi mise en pratique puisqu'il s'est lui-même rendu dans la zone au Pakistan puis en Afghanistan pour organiser l'afflux des volontaires arabes à l'époque de ce djihad en Afghanistan. Au départ, il y avait très peu de volontaires qui affluaient et avec cette structuration mise en place par Azam avec l'aide financière d'Oussama Ben Laden à l'époque, ce sont rapidement des centaines puis quelques milliers de combattants qui ont afflué du monde arabe vers la zone donc Pakistan-Afghanistan à cette époque. Et aujourd'hui, on retrouve donc cette logique de djihad transnational, on l'a retrouvée tout dernièrement avec le djihad en Syrie. Plus récemment encore, donc là on se projette au XXIe siècle, il y a d'autres penseurs de la mouvance djihadiste qui se sont fait remarquer et dont on continue à parler beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Aboubakar Nadji, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La gestion de la sauvagerie » ou « La gestion de la barbarie » et qui explique comment est arrivé à la création d'un État islamique en passant par des phases de création de désordre. Et après avoir créé le désordre, la mouvance djihadiste doit arriver et recréer un ordre, mais un ordre islamique pur. Un autre auteur qui est beaucoup cité, c'est Abu Moussab al-Souri. Abu Moussab al-Souri, lui, est d'origine syrienne et est surtout perçu, même si son œuvre est beaucoup plus vaste que ça, comme le théoricien de la décentralisation du djihad. Et il se trouve que l'œuvre d'al-Souri est arrivée en même temps que les évolutions d'Internet qui se sont matérialisées notamment par la création d'abord de forums, ensuite de réseaux sociaux. Et même si al-Souri lui-même ne parle pas de ces outils technologiques, il est vrai que sa vision de la décentralisation du djihad, en pratique, c'est vraiment très bien allié avec ces évolutions technologiques. Et la mouvance djihadiste a investi très massivement dans la propagande sur Internet, ce qui a abouti à une décentralisation très forte de cette mouvance.
Alors quand même, la nouveauté, Marc Ecker, à vous entendre, c'est que on va théoriser, disons, ces doctrinaires vont théoriser à la fois une violence en interne, disons, pour prendre le pouvoir dans un certain nombre de pays, mais vous l'avez mentionné avec Abdallah Azam, il y a aussi l'idée d'une ouverture et d'une internationalisation, c'est-à-dire maintenant l'idée d'une violence en externe, on va le dire comme ça, d'une violence internationalisée contre les infidèles, et la définition des infidèles peut être effectivement très vaste, hein. Ça peut être le chiite, comme ça peut être l'occidental ou une base américaine en Arabie Saoudite. Donc la nouveauté, c'est vraiment cette espèce d'extension du territoire de la lutte.
Alors, il y a une opposition traditionnelle et qui existe encore aujourd'hui entre les tenants du djihad local, qui viserait par exemple à abattre un gouvernement dans un pays musulman et à le remplacer par une forme de gouvernement théocratique. Et puis les tenants du djihad global, ou du djihad en tout cas lointain, qui cherche à s'attaquer à ce qu'on appelle dans cette mouvance donc l'ennemi lointain, qui est généralement caractérisé par la figure tutélaire des États-Unis. États-Unis, alliés d'Israël, et ça donne des déclarations comme celle d'Oussama Ben Laden dans les années 90, qui dit qu'il faut chasser les juifs et les croisés des terres d'islam, et en particulier de la péninsule arabique où se trouvent les lieux saints. Alors, cette évolution peut s'expliquer par un événement géopolitique important qui vient juste après le djihad en Afghanistan des années 80 et qui est la guerre du Golfe de 1991. Mmh. Puisque à cette période-là, donc le début de cette crise du Golfe qui ensuite devient une guerre en 1991, c'est l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein. Et à ce moment-là, les Moudjahidines afghans ont terminé leur lutte contre l'envahisseur soviétique qui s'est retiré en 1989. Oussama Ben Laden est rentré en Arabie Saoudite et il va voir la famille royale et propose l'aide des ex-Moudjahidines d'Afghanistan pour défendre le royaume saoudien face à une potentielle invasion des armées de Saddam Hussein. Et en fait, le régime saoudien de l'époque refuse cette proposition de Ben Laden et se tourne vers les États-Unis pour sa protection. Et donc, on voit arriver dans les mois qui suivent des centaines de milliers, c'est littéralement des centaines de milliers de soldats américains qui débarquent. Et ça donne donc la guerre du Golfe de 1991. Pour Ben Laden, c'est une véritable trahison. À partir de là, non seulement il va s'opposer frontalement au régime saoudien, mais il va également petit à petit se lancer dans le djihad global contre les États-Unis avec des déclarations très explicites de djihad, notamment sur des médias occidentaux dans les années 90, et puis des attentats. On se souvient par exemple du double attentat contre des ambassades américaines à Dar es Salaam et Nairobi en 1998. Mmh. En 2000, l'attentat contre l'USS Cole, qui était donc un bâtiment de guerre américain au mouillage dans le port d'Aden au Yémen. Et puis, bien évidemment, le grand œuvre d'Al-Qaïda, les attentats du 11 septembre 2001.
La présence soviétique en Afghanistan, puis le départ des soviétiques d'Afghanistan en 1989, Marc Ecker, c'est vraiment un moment matriciel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une, là vous l'avez mentionné avec Ben Laden, il va y avoir une démobilisation d'hommes en armes en fait, une démobilisation de Moudjahidine qui vont ensuite aller essaimer dans un certain nombre de pays et en quelque sorte, notamment l'Algérie par exemple, et qui vont en quelque sorte porter la guerre en eux et porter la guerre dans les pays où ils arrivent.
Alors c'est effectivement un moment très important pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y a ces combattants qui viennent de différentes parties du monde musulman et qui vont rentrer chez eux avec un savoir-faire militaire et contribuer dans certains cas à la déstabilisation sur place. Ça a été le cas en Algérie, ça a été le cas dans les Balkans, ça a été le cas au Caucase, dans une certaine mesure au Yémen aussi. Mais c'est aussi très important parce que ce moment, 1989, représente une sorte d'hubris de la mouvance djihadiste parce qu'ils sont persuadés d'avoir vaincu l'Union soviétique et de l'avoir vaincu non seulement en Afghanistan, mais comme quelques mois plus tard, l'URSS s'effondre, le mur de Berlin tombe, etc., les moudjahidines, les djihadistes sont persuadés d'avoir joué un rôle extrêmement important dans la chute de cet empire qu'ils décrivaient comme un empire mécréant, opposé à leur visée, etc. Et vraiment, je pense qu'il est très important de garder cette dimension en tête parce que on a du mal à comprendre les attentats du 11 septembre 2001 sans avoir cette hubris en tête. C'est-à-dire que Ben Laden était persuadé d'avoir vaincu en quelque sorte l'URSS et il était persuadé de pouvoir faire face à l'autre empire du moment qui était les États-Unis. Il se trouve que ça ne s'est pas exactement passé comme ça, même si, comme on va peut-être en parler ensuite, la guerre en Afghanistan s'est révélée très compliquée pour les États-Unis et leurs alliés, et plus largement, la guerre globale contre le terrorisme a été une suite de choses trappes.
Vous évoquez dans votre ouvrage la figure d'un dénommé Aboud Obeid al-Qurashi, qui est conseiller de Ben Laden, et vous dites, il a lu Mao, il a lu Che Guevara, il est pétri d'idées de ces années 60-70 sur la guérilla révolutionnaire. On retrouve cet élément-là, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut, il y a une possibilité d'aller déstabiliser l'Empire comme on avait pu en rêver dans les années 60-70, Marc Ecker.
Oui, on retrouve en tout cas des éléments de stratégie très clairs, c'est-à-dire que les djihadistes pensent qu'ils sont forts, mais ils sont quand même aussi conscients d'une certaine faiblesse de leur part d'un point de vue militaire pur. Et c'était le cas contre l'URSS, contre l'armée rouge, et ça a été le cas évidemment aussi ensuite contre l'armée américaine et ses alliés. C'est-à-dire qu'ils ne disposent pas de la même technologie, ils ne disposent pas des armements modernes, mais en utilisant des méthodes de guérilla, en pratiquant des effets de surprise, en ayant une grande mobilité tactique, en connaissant parfaitement l'environnement physique et humain dans lequel ils opèrent, ils parviennent quand même à mettre en difficulté les armées les plus modernes. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de classique qu'on retrouvait déjà chez des auteurs comme Mao. Les écrits militaires de Mao sont extrêmement inspirants à ce sujet. Et je fais juste une référence à un texte que j'avais écrit moi-même il y a très longtemps, quand j'étais encore doctorant dans la revue Politique étrangère, qui s'appelait « De Marighella à Ben Laden, passerelle stratégique entre guérilleros et djihadistes ». Et on voit vraiment que certains membres de la mouvance djihadiste ont lu les écrits de cette mouvance plus révolutionnaire maoïste et s'en inspirent dans leur propre combat.
Ce qui montre aussi, et c'est vous y insistez un peu quand même dans votre ouvrage, ce qui montre que le djihadisme n'est pas, comme on le lit parfois dans une vulgate très rapide, le djihadisme n'est pas une fabrication de l'Occident, il n'est pas un effet de la laïcité française ou il n'est pas un effet de l'islamophobie. Il y a vraiment une autonomie doctrinale, stratégique et de passage à l'acte du djihadisme mondialisé.
Absolument. Et ça, je le dirais pas mieux que vous, hein. Donc là, je pense que c'est un point très important de l'ouvrage et qui permet non seulement de contrer un certain nombre de discours complotistes. Il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide. Il est vrai que les États-Unis, à travers les services pakistanais notamment, ont aidé les Moudjahidines afghans. Ils n'ont pas soutenu directement les Arabes qui étaient présents en Afghanistan et qui, pour une partie d'entre eux, ensuite constituer le cœur d'Al-Qaïda. Donc quand on entend dire de manière extrêmement simpliste que Al-Qaïda c'est une création de la CIA, c'est non seulement extrêmement simpliste, mais c'est faux et c'est complotiste. Et par ailleurs, il y a effectivement une pensée autonome qui fait qu'on ne peut pas dire que le contre-terrorisme crée le terrorisme, ni que la laïcité ou l'islamophobie institutionnalisée la laïcité est parfois présentée comme telle par les mouvances djihadistes, on ne peut pas dire que ce soit l'origine de la pensée djihadiste, c'est vraiment pas le cas. Et si c'était le cas d'ailleurs, on ne verrait pas d'attentats dans d'autres pays que la France ou que dans les pays les plus impliqués dans la guerre contre le terrorisme. Or, le djihadisme fait le plus de ses victimes dans les pays musulmans eux-mêmes.
Un élément important de cette autonomie du djihadisme, Marc Ecker, c'est la présence d'une propagande extrêmement forte, extrêmement fine, une présence de Daesh notamment sur les réseaux sociaux, des magazines. Il faut que vous nous en disiez un mot. Là, on est passé à un niveau de grande professionnalisation de la propagande, y compris dans les films, des films d'ailleurs souvent épouvantables d'exécution qui sont filmés en HD et presque montés comme des films hollywoodiens. Là, il y a une nouveauté très forte dans l'usage de la propagande et mondialisée aussi.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les djihadistes ont vraiment innové constamment au niveau de la propagande et ils ont compris assez tôt que Internet était un vecteur formidable pour cela. Et on insiste beaucoup sur la propagande de Daesh, mais en réalité, Al-Qaïda avait déjà fait beaucoup dans ce sens-là. Je donne un exemple qui n'est pas du tout un des premiers exemples de propagande, mais la revue Inspire, par exemple, qui a été créée par Al-Qaïda dans la péninsule arabique un peu avant 2010, c'est un web magazine tout à fait professionnel qui vise, comme son nom l'indique, à susciter, à inspirer du terrorisme dans les pays occidentaux. Donc il est rédigé en anglais, en très bon anglais d'ailleurs, et il donne vraiment des modes d'emploi pour faire des attentats. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que de la propagande, c'est aussi une véritable plateforme opérationnelle, cette utilisation d'Internet par les djihadistes. C'est-à-dire qu'ils se servent d'Internet pour diffuser des grandes orientations stratégiques, pour diffuser des conseils tactiques avec parfois des tutoriels pour fabriquer une bombe ou pour faire le maximum de victimes quand on fonce dans une foule avec un véhicule. Ils s'en servent aussi pour recruter. Et là, il est vrai que les réseaux sociaux ont joué un rôle particulièrement important dans l'afflux des jeunes occidentaux dans la zone syro-irakienne à partir de 2012-2013, avec notamment une accentuation au moment de la proclamation du califat en 2014. Les réseaux sociaux ensuite ont très largement nettoyé leur plateforme, même si on continue à voir sporadiquement de la propagande. Et puis, les djihadistes se servent aussi de ces outils pour lever des fonds. Et on a vu encore tout dernièrement des levées de fonds en bitcoin pour des groupes djihadistes en zone syro-irakienne.
Un élément important, Marc Ecker, je profite qu'on vous ait avec nous aujourd'hui, c'est la question des objectifs politiques du djihadisme. On les comprend pas toujours très bien, c'est-à-dire qu'on voyait bien les revendications du terrorisme des années 70, que ce soit Action Directe, la fraction Armée Rouge, le terrorisme palestinien, il y avait un mobile, il y avait un objectif qui était extrêmement précis. Là, dans le cas du djihadisme, c'est parfois imprécis, ou en tout cas dans la perception qu'on peut en avoir, parce que précisément les djihadistes ont des objectifs précis. Est-ce que vous pourriez nous les indiquer? C'est quoi? C'était instaurer un califat, déstabiliser l'Occident, tuer le plus de monde possible, hein, juifs, croisés, chiites. Quels sont les objectifs du djihadisme mondialisé?
Ce qui est compliqué dans votre question, c'est que on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Là, on va considérer uniquement les djihadistes internationaux à la Al-Qaïda ou à la Daesh et voir leurs objectifs maximalistes globaux. Mais évidemment, il y a aussi tout un tas d'objectifs intermédiaires qui existent, qui sont beaucoup plus territorialisés. Et puis, il faudrait aussi considérer des groupes djihadistes, mais qui ont plus une vocation locale et qui peuvent vouloir établir des petits émirats locaux sans nécessairement avoir des objectifs internationaux. Mais on va dire, pour simplifier, qu'au niveau d'Al-Qaïda et de Daesh, l'objectif, c'est effectivement d'établir une sorte de califat mondial, au moins au départ sur les terres musulmanes, sur la terre d'Islam, Dar al-Islam, voire ensuite élargir ce califat à des terres qui aujourd'hui ne sont pas musulmanes et qui peuvent être même opposées aux groupes djihadistes. Donc ça va être ce qu'ils appellent Dar al-Harb, la maison de la guerre, les territoires de la guerre. Cet objectif maximaliste a été mis en œuvre de manière très différente par Al-Qaïda et Daesh. Pour Al-Qaïda, c'était vraiment l'objectif ultime, le bout, entre guillemets, de la lutte, l'aboutissement de la lutte à très long terme, alors que Daesh a quasiment dès le départ annoncé la restauration du califat, et ça a créé un véritable séisme dans la mouvance djihadiste, et ça a bipolarisé cette mouvance, puisque Al-Qaïda n'a pas reconnu la légitimité du califat de Daesh, en expliquant que notamment l'Oumma n'était pas représentée dans l'Assemblée, la Shura, qui a décidé cette restauration du califat. Et il est vrai que c'était essentiellement des Irakiens qui étaient présents à l'origine de cette décision, et Abou Bakr al-Baghdadi, le premier calife dans la restauration de Daesh, était effectivement lui-même d'origine irakienne. Donc il y a cet objectif ultime. Après, il peut y avoir des objectifs intermédiaires, et Oussama Ben Laden le disait ouvertement, il avait pour objectif, pour reprendre ses termes, de chasser les juifs et les croisés des terres d'islam. Et en ce sens, cet objectif n'a pas été rempli. Donc c'est vrai qu'on a une vision dans notre livre « La guerre de 20 ans » assez critique des résultats obtenus par les Occidentaux dans cette longue guerre contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut voir à rebours, c'est que les djihadistes non plus n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs stratégiques.
On parlera tout à l'heure, dans un instant, hein, du contre-terrorisme. On va écouter une chanson d'Abdel Malik qui est sortie en 2007 et qui s'intitule « 12 septembre 2001 ».
Ok, un peu plus de son dans le cas. Ouais, comme ça c'est bon. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Je fus choqué dans mon intime et je vous jure que si je n'avais pas eu la foi, j'aurais eu honte d'être musulman. Après ça, fallait qu'on montre aux yeux du monde que nous aussi nous n'étions que des hommes. Que s'il y avait des fous, la majorité d'entre nous ne mélangeait pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Après cela, on a tous été pointés du doigt. Ils se sont demandé, peut-être qu'ils sont tous comme ça. Les canons se mirent à bombarder Bagdad et des corps s'effondrèrent en Espagne. Nos leaders se mirent à geindre et la Suisse sur un plateau de télé face à un homme d'État mélangea la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de tarés lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingues lorsque les tours jumelles se sont éteintes. Je découvris la suspicion. C'est quand un homme a peur et que l'autre en face ne le rassure pas. C'est quand celui qu'on croyait connaître devient soudain celui qu'on ne connaît pas. Les Pays-Bas assassinèrent le descendant d'un peintre de renom. La France continua à dire non. L'Europe se scinda en deux. Les uns et les autres qui ne voulaient pas qu'on confonde la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. J'avais la conviction intime ce septembre 2001 que, comme avant, il n'y aurait plus rien. Et en un sens, c'était sublime. Le grain disait adieu à livrer. Alors une parole de paix, j'allais pouvoir délivrer. Ainsi, tous se reconnaîtraient dans la grande famille de l'humanité qui, naturellement, viscéralement, ne confondrait pas la politique avec la foi. J'avais déjà un flot de taré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. On allait tout déconstruire. Déconstruire avec 3D, comme Deleuze, Derrida et Debré. Ni fondamentaliste, ni extrémiste de l'islam ou de la laïcité, mais là, ça devient lourd, je crois. Trop compliqué, en tout cas. Et puis moi, je ne mélange pas la politique avec la foi. Et au fait, ce mois-là et le mois qui a suivi, il y a eu l'album de Jay-Z, Blueprint, une leçon. Et le premier classique de Wallen, à force de vivre avec celle qui a dit non. Et le bouquin de Jonathan Franzen, les corrections. Et moi, moi qui ne faisais rien, qui galérais à la maison. Ah si, je changeais les couches de mon fiston.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, djihadisme et contre-terrorisme, la guerre globale, nous sommes en duplex avec Marc Ecker. Alors, Abdel Malik dit, il faut pas confondre la religion et la foi. Donc, vous avez choisi cette chanson pour ça, Marc Ecker?
Oui, c'est un point important parce que le terrorisme, le djihadisme en tant que tel ne représente pas une menace existentielle pour les sociétés occidentales. Et je crois que ça, on s'en rend compte au bout de 20 ans. En revanche, ce qui est extrêmement dangereux, c'est la capacité de polarisation de ces djihadistes et la surréaction que cela peut engendrer, soit de la part d'autorités, mais soit, surtout, d'une partie de la société civile. Et là, je pense en particulier à l'ultra-droite. Et d'ailleurs, au tout début de l'émission, vous aviez dit que l'attentat de Bagdad du début 2021 était le plus sanglant de ces trois dernières années. C'était vrai pour l'Irak, mais quand on regarde le bilan du terrorisme au cours des dernières années dans les pays occidentaux, les attentats les plus meurtriers, en fait, là je parle vraiment des deux, trois dernières années, viennent de l'ultra-droite. Et en l'occurrence, l'attentat de Christchurch dans des mosquées a fait une cinquantaine de morts en 2019. Donc ça, ce danger de polarisation est bien présent. Et les djihadistes sont dans une logique de guerre des civilisations et il s'agit de ne pas tomber dans ce piège. Et évidemment, du côté des identitaires de l'ultra-droite, ils sont aussi dans cette logique d'affrontement civilisationnel. Et là, je crois que toutes les voix modérées qui peuvent faire entendre une forme de raison et qui peuvent expliquer que la cohésion sociale est importante, que la République permet cette forme d'intégration et de vivre ensemble, sont bonnes à entendre. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson d'Abdel Malik.
Au moment presque où Abdel Malik fait cette chanson, vous évoquez dans votre ouvrage, Marc Ecker, le cas d'un jeune homme début de Chaumont qui s'appelle Shérif Kouachi. Il a une vingtaine d'années, il veut déjà attaquer des commerces tenus par des juifs, d'une espèce de vocation originelle. Et puis il finira par partir en Irak. Il y a assez vite, il y a des centaines, puis des milliers d'Européens qui vont rejoindre les rangs des islamistes en Syrie. Comment est-ce que on peut comprendre que ce conflit-là puisse faire naître des vocations chez des jeunes gens qui sont nés en Occident?
Alors, Chérif Kouachi, en fait, ne part pas en Irak. C'est intéressant parce que là, on est sur la première décennie des années 2000, hein, donc après l'invasion américaine de 2003, qui est sans doute l'erreur majeure vraiment du contre-terrorisme de ces 20 dernières années et qui a permis de relancer la mouvance djihadiste. Et Chérif Kouachi donc, veut partir en Irak pour s'opposer aux Américains sur place, mais il est arrêté juste avant son départ. Et il est emprisonné en France. Il est condamné à une peine relativement légère, notamment parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa démarche et qu'il n'a pas fait effectivement le djihad. Mais on s'aperçoit dans ce cas-là que 10 ans après, puisque voilà, il a été arrêté effectivement 10 ans avant l'attentat de Charlie Hebdo, 10 ans après, il passe à l'acte. Et cette notion de temps, à mon avis, est extrêmement importante. Et je le mentionne notamment parce que j'ai récemment rédigé un rapport qui est disponible sur le site de l'IFRI sur le programme de déradicalisation français. Et une des difficultés qu'on a dans l'évaluation de ces programmes, c'est justement le manque de recul. Donc là, aujourd'hui, on a 2-3 ans de recul avec des résultats qui sont relativement rassurants, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner dans 10 ans. Et donc là, on a aussi besoin de, par moment, de se donner du temps et puis surtout de développer des stratégies de long terme pour tenter de prévenir et de contrer la radicalisation. Alors, pour en revenir plus précisément à votre question sur la guerre en Syrie, effectivement, la guerre en Syrie est devenue le grand djihad de l'époque contemporaine et a dépassé de loin le grand djihad précédent, qui était celui en Afghanistan des années 80, qu'on a déjà évoqué. L'ordre de grandeur, c'est qu'en Afghanistan, il y avait environ 10 000 combattants étrangers qui étaient venus se joindre à la lutte des moudjahidines afghans. En Syrie, en zone syro-irakienne, il y a eu environ 40 000 combattants étrangers qui sont arrivés, dont 5 à 6 000 d'Europe. Et parmi les Européens, les Français, avec environ 1 300 personnes, ont constitué le contingent le plus important. Comment expliquer ce succès, entre guillemets, du djihad en Syrie? Il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments théologiques qui entrent en compte, parce que la terre du Cham, qui désigne cette zone syro-irakienne pour les djihadistes, a une importance particulière dans le Coran. Il y a des éléments de propagande qu'on a déjà évoqués. Donc la propagande sur Internet a été très efficace et a permis d'attirer beaucoup de personnes. Et puis il y a des éléments de facilité géographique. Hein. La Syrie est très proche. Pour aller en Turquie, donc pays limitrophe, il n'y avait même pas besoin de passeport. Et ensuite, on pouvait trouver des passeurs pour quelques dizaines ou centaines de dollars pour aller jusqu'en Syrie, avec donc une facilité pour entrer sur ce territoire vraiment très développé. Tous ces éléments s'expliquent au niveau macro. Au niveau micro, ce qu'on a vu se développer, ce sont des dynamiques de groupe, avec dans certains quartiers des jeunes qui commençaient à partir et qui attiraient leurs copains. Ça a donné donc des phénomènes de concentration sur certaines zones, à Trappe par exemple, à Lunel. Et donc on a vu au bilan un phénomène massif de jeunes, notamment français, qui sont partis en zone de guerre et qui pour certains d'entre eux sont revenus. Et pour certains de ceux qui sont revenus, ils sont rentrés avec des intentions belliqueuses.
Dans les quelques minutes qui nous restent, Marc Ecker, je voudrais qu'on évoque, parce que c'est aussi important dans votre ouvrage, la question du contre-terrorisme. Donc le temps a un tout petit peu filé, mais vous montrez quand même, notamment, je dirais sur place, quand il y a des troupes, que la doctrine, notamment la doctrine américaine, a beaucoup évolué. Il s'agit plus de faire tomber des régimes problématiques, il s'agit plutôt de stabiliser des États effondrés. Vous dites qu'on est presque dans ce qu'on appelle le nation building, hein, la reconstruction d'une nation. Ça, c'est la nouveauté. C'est un élément assez nouveau de la lutte contre le terrorisme, stabilisé localement.
Il y a eu plusieurs phases. Donc, il y a eu une phase effectivement au départ de changement de régime. Ça a été le cas en Afghanistan avec le régime des talibans qui a été renversé et les camps d'entraînement d'Al-Qaïda qui a été hébergé, qui ont été détruits. Ça a été le cas en Irak à partir de 2003. Mais très rapidement, le chaos s'est développé dans ces pays et donc les Américains ont voulu stabiliser ces régions en déployant beaucoup d'hommes et en s'appuyant sur une nouvelle doctrine qui était la doctrine de contre-insurrection. Et il s'agissait de sécuriser les populations et de les séparer des insurgés pour que les populations endossent le projet politique du régime en place. Le problème de cette méthode, qui s'est avéré relativement efficace, notamment en Irak, il y a eu vraiment une forme de stabilisation par rapport à la guerre civile qui était à son comble en 2005-2006. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle est très coûteuse, très coûteuse financièrement et très coûteuse en hommes, très coûteuse en vie humaine parce que ces hommes sont exposés sur le terrain. Et les Américains ont très vite voulu se désengager du Moyen-Orient, de ces guerres lointaines et coûteuses, et ont adopté une approche plus légère, l'approche que Joe Biden, quand il était vice-président d'Obama, avait appelé le contre-terrorisme plus, et qui se repose très largement sur un triptyque qui est le renseignement, les forces spéciales et les drones. Et aujourd'hui, je crois qu'après 20 ans de guerre globale contre le terrorisme et après de nouveaux engagements massifs liés à la montée en puissance de Daesh en zone syro-irakienne en 2014-2015, les Américains sont à nouveau dans une phase où ils veulent se replier, ils veulent refermer la phase de la guerre contre le terrorisme et repasser une approche plus légère, sans doute à nouveau sur la base de renseignements, drones et forces spéciales.
Brièvement sur le cas français, Marc Ecker, il y a un arsenal assez imposant sur le contre-terrorisme en France. Vous montrez quand même qu'il a beaucoup évolué, beaucoup changé. Il y a eu la LOPCI, il y a eu des magistrats spécialisés, on a expulsé des imams, on a essayé de lancer la détection de la radicalisation. Est-ce qu'il fallait faire tout ça, ou est-ce que c'est des formes de tâtonnement sur une doctrine contre-terroriste un peu compliquée à trouver et à stabiliser?
Il est compliqué de répondre très rapidement à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une accumulation de normes au cours des dernières années, que l'arsenal a été considérablement renforcé, qu'il y a eu une période de législation d'exception au moment de l'état d'urgence de 2015 à 2017, qu'une partie des dispositions de l'état d'urgence ont ensuite été versées dans le droit commun avec une loi qui s'appelle la loi SILT en 2017 et dont aujourd'hui on reparle puisque cette loi prévoyait une clause de revoyure. L'arsenal a été considérablement renforcé, c'est sûr. Le curseur entre sécurité et préservation des libertés individuelles a bougé. Maintenant, est-ce qu'on est allé trop loin? C'est très compliqué de le dire. Est-ce que la ligne rouge a été franchie? Franchement, il n'est pas simple de le dire. Mais je pense qu'il est important de garder en tête que le terrorisme espère une surréaction de l'État et garder en tête qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, encore une fois, voilà, il faudrait rentrer dans le détail, ce serait trop long, et de toute manière, il n'est vraiment pas simple de répondre à votre question.
Est-ce que la sortie de prison d'un certain nombre de revenants, comme on les appelle, de Syrie, c'est aussi un enjeu fort dans les années qui viennent?
C'est un enjeu. Il y a déjà eu beaucoup de sorties de prison ces dernières années. On attend à peu près 100 sorties de prison pour 2021 et 2022 d'individus condamnés pour des faits de terrorisme. Donc oui, c'est un enjeu. Maintenant, comme je le disais, les choses ont aussi beaucoup évolué en prison avec la création de quartiers d'évaluation de la radicalisation, de quartiers de prise en charge de la radicalisation, mais aussi en dehors avec le développement de programmes de prise en charge dont les résultats sont pour le moment plutôt rassurants. Mais évidemment, rien n'est gagné, d'une part parce qu'il y a des personnes qualifiées de haut spectre de la menace, c'est-à-dire vues comme particulièrement dangereuses, qui vont sortir et qui probablement ne seront pas accessibles à une prise en charge. Et d'autre part, il y a énormément de zones de djihad qui existent encore dans le monde et qui pourraient permettre une resanctuarisation de cette mouvance. Donc je crois que la lutte va encore être longue.
Merci beaucoup Marc Ecker, notre émission s'achève, merci d'avoir été avec nous en cette période toujours un peu difficile. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, co-rédigé avec Elie Tenenbaum, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au 21e siècle. C'est sorti chez Robert Laffont en 2021. Merci à Emmanuel à la technique, ce programme sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.
Merci beaucoup.